France Inter, le 18-20.
Qui a eu affaire à l'hôpital public un jour, on revient avec le même diagnostic. Même au fond d'un lit d'hôpital, on voit des choses et on entend courir dans les couloirs, notamment un personnel dévoué, mais souvent débordé. Puis il n'y a pas que ce qu'on voit. Le manque de matériel se fait parfois criant, le manque de personnel, manque de reconnaissance aussi, ce qu'on entend beaucoup dans les manifestations d'ailleurs, notamment en ce moment. L'hôpital est-il en train de se transformer en une sorte d'entreprise à qui on demande plus de chiffres? L'hôpital est-il étranglé par un budget à boucler qui mériterait qu'on l'augmente? L'hôpital rend-il malheureux ceux qui y travaillent? Est-ce que tout va si mal? L'hôpital public qui tire sur l'ambulance? C'est le téléphone sonne de ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Et le premier, c'est vous, Jean-Philippe. Bonsoir, bienvenue dans le téléphone sonne, on vous écoute.
Bonsoir, donc je suis praticien hospitalier temps complet du secteur public, sans secteur privé, je le précise. Je travaille au moins 50 heures par semaine depuis des décennies. Sauf que depuis quelques temps, 15 à 20% de mon temps au moins sont obligés d'être passés en tâches administratives, en business plan, en préparation de projet. L'administration a parfaitement compris que les scanners et les IRM sont des machines à faire rentrer du cash dans les finances de l'hôpital. Ça va de pair avec une pression permanente de l'administration et des objectifs de rentabilité et une maltraitance institutionnelle, maltraitance qui a d'ailleurs été dénoncée ce week-end lors des journées françaises de radiologie, lors de plusieurs communications. Alors ma question est la suivante, c'est dans les nouvelles accréditations, il y a un critère concernant la qualité de vie et le bien-être des médecins au travail. On sait qu'un médecin qui ne va pas bien, ne soigne pas bien, que c'est une perte de chance pour le patient et que ça a un coût pour la société. Donc quand est-ce que ce décret va être enfin mis en application avec des premiers exemples et des moyens qui iront derrière pour que les médecins se sentent à nouveau bien dans les hôpitaux, ce qui n'est plus le cas?
Une question bien concrète. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et c'est vous donc qui ouvrez le bal. On est en plein dans le sujet pour vous répondre ce soir. Frédéric Valtoux, vous êtes président de la Fédération hospitalière de France. Et Rémi Salomon, vous êtes chef de service à l'hôpital Necker à Paris, vice-président de la commission vie hospitalière chargée des conditions de travail à la PHP. Et Daniel Messager est là ce soir autour avec nous, bien sûr, spécialiste santé à France Inter. Rémi Salomon, commençons par vous. Pardon, qu'est-ce qu'on répond à Jean-Philippe? D'abord, ce décret dont il parle, c'est bientôt, c'est quand, ça existe?
Alors, ce décret, on en parle. On parle beaucoup, de plus en plus, de la qualité de vie au travail des soignants. Philippe est praticien hospitalier, médecin comme moi. On pourrait dire la même chose des infirmières. On aurait pu avoir, on aura peut-être une infirmière au téléphone,
hein,
qui sont également dans une situation de grande difficulté par rapport à ce ressenti par rapport au travail. Donc, c'est un sujet qui n'est pas juste un sujet à la mode. Hein. C'est un vrai problème en profondeur et j'espère que ce soir, nous aurons un peu le temps pour analyser les causes de ce mal-être au travail. Car Philippe, notre collègue, l'a bien dit, quand des soignants souffrent, la qualité des soins en pâtit directement.
Alors, il a donné des pistes, hein, pardonnez-moi, dans ce qu'il dit, Jean-Philippe. Il parle d'administratif beaucoup trop important, il parle de chiffres, il parle de maltraitance institutionnalisée. C'est quand même très grave, des mots pareils.
Alors, il est clair que, on va rentrer donc dans les diagnostics, hein, maintenant. Pourquoi les soignants sont-ils dans cette situation? Eh bien, c'est inhérent au système de financement de l'hôpital public qui pose un réel problème. D'abord, il y a un problème d'enveloppe globale. Les hôpitaux publics, dans leur quasi-totalité, sont en déficit. On a aujourd'hui une enveloppe pour le budget de la santé qui est votée chaque année par le Parlement, hein, c'est l'ONDAM, et qui est en fait restreinte. On sait qu'il faut, on nous le dit tous les jours, diminuer la dépense publique, retourner à l'équilibre pour la sécurité sociale. Et donc cela signifie que l'on va restreindre le budget de l'hôpital. Et ça a des conséquences. Et deuxième chose, c'est ce que l'on appelle le mode de financement des hôpitaux, c'est la tarification à l'activité. Et cette tarification à l'activité...
La fameuse T2A.
La fameuse T2A, dont on entend beaucoup parler, qui ne mesure en fait que l'activité et non pas la qualité des soins. Et c'est là que, justement, on va certainement développer ce point. Le problème
Et allez-y, finissez votre phrase.
Je dis que c'est le problème essentiel, c'est qu'on est sur une logique comptable. Faire de l'activité, c'est faire du chiffre. On demande au chirurgien d'opérer un certain nombre de patients chaque jour, mais on ne lui demande pas et on ne cherche pas à savoir s'il a bien opéré son patient.
Et on parlera et on me donnera des exemples aussi. On va reprendre une auditrice, mais je veux pas, Frédéric Valtoux, que vous puissiez rester sans réponse dans ce qui vient d'être dit, à la fois de la part de Jean-Philippe, mais aussi de Rémi Salomon à l'instant. Est-ce que finalement tout revient au financement? Si on finançait mieux, alors tout le monde irait beaucoup mieux.
Le financement, c'est un sujet, mais le développement de la bureaucratie, ça n'a rien à voir avec le financement. Et le développement des tâches administratives à l'hôpital, c'est un défaut et une dérive de notre système qui n'est pas propre qu'à la gestion interne des hôpitaux. Mmh. C'est tout notre système de santé qui, un peu à rebours beaucoup de systèmes publics qui se modernisent et qui simplifient leur organisation. Le ministère de la Santé, tout le système de santé publique, au contraire, a vu se développer les tâches administratives et le poids de la bureaucratie. On peut prendre un exemple, les agences régionales de santé qui sont une double commande du ministère qui pèse sur les hôpitaux. Donc, en fait, finalement, aujourd'hui, on a l'impression que la réforme de l'État s'est arrêtée au port du ministère dans la santé, et c'est bien dommage, parce qu'effectivement ça se répercute au quotidien sur tous ceux qui participent au système,
pour aller dans le sens qui est le vôtre. Je voudrais qu'on écoute Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute.
Donc Isabelle, infirmière cette fois, mais en cancérologie. En effet, je prends le relais de ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que ces dernières décennies, on a vu évoluer nos surveillantes de soins qui sont maintenant des managers. Le plus souvent, la direction des pôles ou des chefferies de service est donnée à des médecins PU, professeurs des universités, dont on aurait besoin. Et finalement, ces gens-là, ils sont plus là pour les patients, pour les équipes, pour nous. Ils sont complètement pris par leurs tâches administratives. Et voilà, et qu'est-ce que proposent nos intervenants pour que nos professeurs reviennent enseigner, que ces super médecins qui ont fait une carrière universitaire soit aux côtés des médecins dans les services, et que nos cadres de santé ne fassent pas que du management, mais aussi s'occupent de leur équipe, connaissent les soins qui sont dans leur service, pour œuvrer à la qualité des soins malgré les contraintes budgétaires.
Et votre question a été bien entendue, Isabelle. On va poser la question à nos invités, bien sûr. Un mot, Daniel Messager, peut-être, vous voulez intervenir?
Oui, un mot qu'on n'a pas encore entendu, mais qui va forcément arriver dans l'émission, c'est le mot entreprise, parce qu'on parle administration, on parle budget, enfin, c'est comme si on parlait d'une
L'hôpital
entreprise.
Est-il une entreprise?
L'hôpital
comme une
est-il une entreprise? Alors, à la fois, oui, il est en entreprise, parce que on y parle d'argent, évidemment, l'argent est présent, l'argent sort, l'argent rentre, il faut faire rentrer l'argent, et cette tarification à l'activité, effectivement, il y est pour beaucoup, puisque en caricaturant un peu, parce que nos auditeurs savent pas forcément ce que c'est, mais très grossièrement, c'est un peu comme si on incitait les hôpitaux à faire davantage d'activités, parce qu'ils vont recevoir davantage d'argent de la sécurité sociale.
Et parce qu'il y a des activités qui rapportent et d'autres
voilà.
qui rapportent moins.
Et en gros, s'ils veulent s'en sortir, et ben, il faut qu'ils fassent plus d'activités. C'est pour ça qu'on a le sentiment que si une entreprise, on les incite toujours à faire plus d'activités. Et puis non, c'est pas une entreprise parce que on met pas des petits pois en boîte, parce qu'on soigne des gens, parce qu'il est question de vie, de mort. L'infirmière en cancérologie qui vient d'intervenir, elle vit ça tous les jours, j'imagine. Et donc, c'est la difficile articulation entre ces deux méthodes qui est compliquée.
Frédéric Valtoux,
oui.
Je vous ai vu lever la main.
C'est oui, bien. Mais on pourrait dire que l'hôpital, c'est une entreprise de service public. Et dans cette expression, le mot service public, il a du sens parce qu'on défend des valeurs. Et c'est vrai que l'hôpital ne choisit pas ses malades. Et que tous les gens qui passent la porte de l'hôpital, quelle que soit leur pathologie, mais surtout quelle que soit leur condition personnelle ou sociale, est pris en charge de la même manière. Et donc, c'est la grandeur, mais aussi la difficulté des établissements hospitaliers. C'est qu'effectivement, on leur demande de rentrer dans un cadre de gestion, tout en effectivement poursuivant des missions de service public qui les éloignent d'une gestion classique d'entreprise. Et tant mieux, ça n'est pas une entreprise tout court, un hôpital. Par contre, on pourrait dire que c'est une entreprise de service public. Maintenant, il ne faut pas que le mot entreprise prenne le pas sur le mot service public.
Mais Rémi Salomon, qu'est-ce qu'on peut répondre à Isabelle qui dit « Rendez-nous les grands professeurs, remettez-les dans les services, remettez-les au milieu de nous ».
Et on pourrait dire la même chose des directeurs de soins, des cadres supérieurs. C'est, je pense, le mode de gouvernance de l'hôpital qui pose un réel problème. Je voudrais revenir deux secondes sur la tarification à l'activité et les conséquences en pratique. C'est-à-dire, comme on doit faire du chiffre, on doit aller vite, de plus en plus vite. Et à moyen constant, l'activité augmente chaque année dans les hôpitaux à moyen constant. Et donc, on est obligé d'aller de plus en plus vite et on n'a plus le temps de s'occuper des patients. Je vais vous raconter une anecdote, une histoire qui se passe dans mon service. Donc, je dirige un service de néphrologie pour les enfants, donc des enfants qui sont atteints d'insuffisance rénale. On les met en dialyse et rapidement, on essaye de faire une transplantation rénale. Donc, c'est des maladies chroniques, des maladies lourdes. Une infirmière, on fait des conseils de service. Tous les deux mois, on se réunit pour parler du travail. Ça, c'est essentiel dans l'équipe, que l'on puisse échanger entre les médecins, les infirmières, tout le personnel de... Une infirmière prend la parole et dit « Vous savez, la collègue Intel est partie il y a un mois du service. Et elle m'a raconté l'histoire suivante. Un soir, en fin de journée, je passais dans le couloir du service et j'ai vu une maman qui pleurait. J'ai fait semblant de ne pas la voir car je n'avais plus le temps de m'occuper d'elle. Eh bien, ce soir-là, j'ai décidé de quitter l'hôpital. Pour dire que le travail perd son sens. Si on a choisi de travailler à l'hôpital public, c'est parce que, comme la plupart des Français, et l'enquête le montre bien, on est très attaché à ce service public, avec ses valeurs de solidarité, d'équité, et on a une idée du travail que l'on souhaite faire. Et quand on est empêché de faire ce travail, du fait de cette course à l'acte, à l'activité, eh bien, on a ce qu'on appelle de la souffrance morale. Hein, le travail perd son sens, c'est plus que de la souffrance physique, c'est de la souffrance morale.
Ça veut dire qu'on perd l'humain. Ça veut dire si on perd l'humain de son travail, qu'est-ce qu'il en reste pour une infirmière, pour un médecin?
Voilà. Et pour revenir juste sur le management, pour répondre plus précisément à la question d'Isabelle, effectivement, on a une gouvernance de l'hôpital qui est alors très pyramidale. Frédéric Valtoux a parlé des ARS hein, qui vont faire des injonctions auprès des directeurs d'hôpitaux.
Des agences régionales de santé,
qui sont des sortes de préfets sanitaires nommés par le gouvernement, et qui vont donc là aussi donner des injonctions au directeur d'hôpital pour faire du chiffre, de la rentabilité. Mettre le budget de l'hôpital à l'équilibre. Et le directeur d'hôpital va reporter cette injonction sur les chefs de pôle qui vont eux-mêmes les reporter sur les chefs de service. Et finalement, on perd dans cette chaîne, si vous voulez, de hiérarchique, on perd le sens. On a le travail prescrit, celui qui vient de tout en haut, et puis le travail réel, celui qui est fait par les infirmières, par les médecins dans les services. Et ce qu'il faudrait réellement, c'est redonner la parole à ceux qui font le travail, leur donner la possibilité de réfléchir, de parler, de réfléchir à l'organisation de leur travail.
Donc repartir par en bas, ça veut dire que le diagnostic, il est posé, il est posé par vous deux, vous
oui,
n'allez pas dans une direction différente,
là-dessus,
monsieur Valtoux.
Non, je partage complètement cette analyse, c'est vrai qu'on a un système dont on touche aujourd'hui les limites, parce que pour lui donner du sens et de l'avenir, il faudrait changer totalement de logiciel et effectivement faire confiance aux professionnels. C'est-à-dire, l'organisation d'un hôpital parisien ne peut pas être le même que celui d'un hôpital beaucoup plus petit en province, qui a un rôle différent d'un CHU parisien ou de grande ville. Et ça, on peut le décliner à l'infini parce que les régions ne sont pas les mêmes, parce que l'offre sur un territoire n'est pas la même, etc. Et parce que aussi les pathologies d'une région et d'une autre ne sont pas toujours les mêmes et les besoins de la population ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai qu'on est dans un système qui est beaucoup trop uniformisé, beaucoup trop bureaucratisé et qui a raté jusqu'à présent cette capacité à faire émerger des modèles souples. Alors ça paraît des grands concepts, mais c'est vrai que derrière ça, il y a la capacité pour les hôpitaux de s'organiser selon les besoins, il y a la capacité aussi de créer s'insérer dans un dispositif local où parfois ils vont travailler avec la médecine de ville, différemment, etc. Enfin voilà, un système où on pourrait faire plus de la dentelle alors qu'aujourd'hui on est effectivement sur costume à taille unique pour tout le monde.
Sur l'emporte-pièce un peu quand je vous entends. Daniel Messager.
Mais alors il y a une nouvelle façon en plus de mettre ensemble les hôpitaux actuellement qui est les GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Je voudrais savoir ce que vous en pensez parce que est-ce que ça signifie qu'en regroupant les hôpitaux, on ajoute encore cette espèce de notion d'entreprise en faisant des gros mastodontes et en laissant de côté les petites structures, puisque c'est beaucoup ce que disent les maires de communes qui vont voir fusionner des hôpitaux et donc peut-être disparaître les leurs. Ou est-ce que c'est une façon finalement de rendre les choses un peu plus... Alors quand je dis rentable, c'est pas un gros mot, hein, mais de faire en sorte que le spécialiste de cardio, on est sûr de le trouver à cet endroit-là et de pas aller à un endroit où il n'y en aura pas, où il sera moins performant.
Je pense que faire travailler les hôpitaux ensemble, c'est commencer à concrétiser ce qui est l'avenir de notre système de santé, c'est-à-dire faire émerger des parcours de soins et effectivement une prise en charge qui sera graduée du patient. On doit définitivement tourner la page à cette idée que partout on pourrait installer des hôpitaux qui sur toutes les spécialités seraient compétents, seraient les mieux équipés,
etc. Mais ça c'est bien entendu par tout le monde.
Je pense qu'il faut, il faut en avoir conscience. Il y a une pénurie de médecins, il y a quand même un quart des postes de praticiens hospitaliers aujourd'hui qui ne sont pas pourvus ou mal pourvus par effectivement des intérimaires, par des médecins étrangers dont certains, sur lesquels on peut s'interroger sur la qualité des diplômes, etc. C'est ça la réalité. Un quart des postes de praticiens hospitaliers.
Est-ce que ça veut dire, mais un quart des postes parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce qu'on ne veut pas y aller quand on est un jeune praticien hospitalier ou pas?
Je pense
Rémi
que
Salomon, la raison pour laquelle il en manque un quart et qu'on doit aller les chercher.
Il en manque à l'hôpital,
en
il en manque en ville aussi. Je voudrais juste rebondir.
Sûr,
parce qu'on a parlé des GHT, ces groupements hospitaliers de territoire. Il faut parler de l'ensemble de la médecine de ville. Hein, c'est-à-dire, l'hôpital aujourd'hui est finalement le réceptacle de tout ce que la médecine de ville ne peut pas faire. Les urgences augmentent chaque année car il n'y a plus de structure en ville pour prendre en charge le patient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les maladies chroniques, pour laquelle la T2A n'est absolument pas adaptée. Hein, j'ai dit tout à l'heure, pour s'occuper des patients, il faut prendre du temps. La T2A ne sait pas évaluer ce temps que l'on passe. Pour les maladies chroniques, les réseaux de soins, hôpital, ville, sont absolument essentiels. Et nous n'avons pas un système de soins aujourd'hui capable de répondre à la demande de prise en charge de ces maladies chroniques qui sont en expansion considérable. C'est un enjeu considérable pour l'avenir.
Je voudrais qu'on retourne à l'hôpital et qu'on retourne aux standards aussi. Retrouver Marie qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Marie, bonsoir et on vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Voilà, moi je suis chef de service dans un hôpital périphérique de la région toulousaine. Et alors moi, comme je disais aux standardistes tout à l'heure, je comprends parfaitement les contraintes budgétaires dans un contexte de tension économique. Voilà, il y a des pays où c'est tellement pire, on va pas se plaindre. Mais moi, j'aimerais en tant que chef de service qu'on vienne me voir et qu'on me dise voilà, il y a tant d'économies à faire sur votre service en un an, en deux ans, quel que soit le délai. Et je saurai optimiser au maximum parce que je connais le terrain et je saurai prendre les décisions qui impacteront le moins sur la santé des patients et sur celle sur l'équilibre d'un service hospitalier. Donc au lieu de ça, du jour au lendemain, ah tiens, ben l'infirmière, on la prend, on la met ailleurs. Donc c'était l'infirmière la mieux formée. Donc du coup, enfin les conséquences sont comme ça en chaîne, impactent vraiment quoi sur plein de choses, sur la santé des patients et celle des soignants, parce qu'au final, nous, on a le sentiment de faire du mauvais travail et de gaspiller encore plus d'argent que les économies que l'on fait. Mmh. L'impact financier à court, même à court terme, il est peut-être discutable, à moyen et long terme, mais c'est une catastrophe.
Merci beaucoup.
C'est cette façon de gérer les finances sans consulter les travailleurs de terrain qui sauront faire les choses avec moins. C'est ça l'enjeu, en fait.
Marie, merci pour votre témoignage, parce qu'on a bien compris ce que vous disiez, où vous nous emmenez. Rémi Salomon, vous voulez répondre, et Frédéric Valtou aussi.
Oui, donc je voudrais répondre à Marie en deux temps. D'abord, elle dit, Marie, on comprend bien la contrainte budgétaire.
Ouais.
En effet, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, la dépense publique, il faut la réduire, il faut diminuer les charges, diminuer les impôts. Toutes les économies ne sont peut-être pas bonnes à faire. Malgré tout. Alors, on peut certainement, en revoyant les organisations, faire des économies. On peut probablement gagner en ce qu'on appelle l'efficience. Hein. Mais attention, l'enveloppe contrainte, à force, on n'y arrivera pas. Donc, je pense qu'il faut relâcher. On va en parler, j'espère, tout à l'heure. On a besoin d'investissements. On va parler peut-être du numérique qui nécessite de l'argent. Donc, attention à la contrainte budgétaire. Elle a des limites. Mmh. Et deuxièmement, Marie l'a bien dit, on ne vient pas me demander mon avis, en fait, quand on va déplacer une infirmière ou quand on va répartir d'un service à l'autre une infirmière. On ne vient pas de me demander mon avis. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des injonctions qui viennent d'en haut et il n'y a pas assez de participation de ceux qui font. Marie, elle sait ce qui est nécessaire pour faire tourner son service et pour bien le faire tourner. Elle a besoin qu'on l'entende, que le directeur de son hôpital vienne la voir et qu'ils se mettent ensemble autour d'une table pour discuter, parler, partager les problèmes qui se posent.
C'est le cas pour vous, le directeur ou la directrice de l'hôpital.
Vous posez la question, vous faites comme ça, des clés ou pas?
Alors, donc, écoutez, nous essayons, mais c'est pas toujours assez, voilà. Hein, je vais être honnête, pas toujours assez. J'avais mon directeur de ce matin au téléphone, je lui ai dit, je passe au téléphone, sonne. Et donc, j'aimerais savoir si vous avez des questions.
S'il veut nous appeler, voilà. 0145 24 7000.
Et donc, c'était intéressant car s'installe une défiance finalement entre, et c'est ce que dit Marie quelque part, entre les médecins, qu'ils soient chefs de service ou praticiens, et les directions. Et donc on a un hôpital où finalement on est cloisonné. On a d'un côté les médecins, d'un autre côté les directions et d'un autre côté les infirmières. Et plus personne ne se parle. Et ça, c'est absolument dramatique. Il faut remettre du lien entre les professionnels de l'hôpital.
Frédéric Valtou,
Comment on remet du lien, effectivement, sans doute parce en écoutant ce que nous vient de nous dire votre interlocutrice Marie, et qui effectivement disait finalement faites-moi confiance, qu'on me fasse confiance et moi je le trouverai, parce que je suis effectivement dans les services et je trouverai les moyens de proposer des économies qui me paraissent les plus adaptées.
Parce que ce qui est intéressant avec Marie, c'est qu'elle ne dit pas non, d'économie, elle dit laissez-moi choisir.
Vous savez, il y a quand même eu 7 milliards d'euros d'économies économisées par les hôpitaux ces 10 dernières années, dont 3 milliards ces 3 dernières années. Ça s'est pas fait comme ça. Enfin, les hospitaliers ont joué le jeu, ils ont été au rendez-vous. faites-vous des économies tous ensemble ? Et très franchement, c'est presque parfois miraculeux, entre guillemets, qu'il n'y ait pas plus de tensions sociales. Il y en a parfois dans des établissements. Mais je veux dire, il y aurait toute matière à ce que à l'hôpital, il y ait une tension sociale beaucoup plus forte qui s'exprime. Et pourtant, parce que je pense que les hospitaliers, évidemment, ont des valeurs, savent l'utilité et l'importance de leur métier et continuent à l'exercer malgré les conditions difficiles. Pour autant, j'entends la séparation directeur, médecin, soignant, paramédicaux, etc. Mmh. Bon, moi j'ai visité, parce que je vais beaucoup, me déplace beaucoup dans les hôpitaux, je visite aussi des établissements, alors peut-être loin des grands CHU, mais où au contraire, il y a un dialogue étroit qui se fait, où finalement, les communautés hospitalières sur le terrain se serrent les coudes et arrivent à trouver des solutions au bénéfice des patients. On parlait tout à l'heure des groupements hospitaliers de territoire. Dans certains endroits, les groupements hospitaliers de territoire permettent de remettre des consultations dans certaines spécialités, je ne vais pas dire dans des terres un peu reculées, ce serait pas adapté, mais en tous les cas, dans des endroits, dans des départements où il n'y en avait plus. Parce que le CHU prend en charge une présence médicale via des consultations
et
dans certains secteurs.
Et tant pis si on perd le petit hôpital, même si le maire n'est pas
content.
Le petit
hôpital, on le fermera jamais. Il sert simplement, la France vieillit, on reçoit de plus en plus de personnes âgées, il peut muter vers un accueil pour personnes âgées. Enfin, vous savez, quand on ferme des maternités, c'est parce que souvent il y a la question de la sécurité derrière.
Absolument.
Quand on ferme un bloc chirurgical, c'est souvent parce que, à force de finalement qu'il n'y ait presque plus d'opérations dans ce bloc chirurgical, la question de la sécurité est posée. Voilà, donc si vous voulez, on ne ferme pas pour fermer. Je pense que notre système hospitalier doit évoluer et on a des besoins de proximité qui doivent être servis par les hôpitaux locaux, mais pas tout seul dans leur coin, en lien avec des hôpitaux de référence qui viennent les appuyer et viennent organiser un maillage et une présence médicale.
Rémi Salmon, je sais que vous voulez intervenir, mais je voudrais qu'on écoute Patrice parce qu'il est précisément sur le même sujet, sur le même thème. Patrice, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Écoutez, je suis chirurgien, chef de service. Tout ce que vous dites est très vrai, c'est très bien. Le malaise à l'hôpital, c'est très vrai. Mais je pense qu'il faut se reculer un petit peu et il faut se rendre compte qu'en France, il y a environ 6000 hôpitaux publics. En Allemagne, pour 80 millions d'habitants, il y a 2000 hôpitaux publics. En Angleterre, à peu près 650. Tout le monde sait, dans toutes les études l'ont démontré, nous avons en gros 40% de lits d'hôpitaux en supplément par rapport au ratio des États-Unis. Je pense que un des problèmes principaux qui frappe l'hôpital dans ce pays, c'est justement la multiplicité des sites hospitaliers qui fait que, évidemment, ils n'ont pas assez d'argent. Et il est clair qu'il faut regrouper. Les GHT, c'est une très bonne idée, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut arriver à regrouper les hôpitaux, y compris dans les grandes villes. Hein, y compris dans les grandes villes. Moi, je suis parisien, je travaille à Paris. Et bien, je peux vous dire que même dans Paris, il serait bon de regrouper les hôpitaux plutôt que de disperser les forces hospitalières, tant d'ailleurs matérielles, financières, que du personnel. C'est évident.
Alors, on imagine bien l'énorme structure, en fait, les énormes structures, Patrice, que vous voulez nous faire. Votre réponse, Frédéric Valtoux.
Quelques éléments pour préciser ce que vous venez de nous dire, ce que vient de nous dire votre interlocuteur, Patrice, je cherchais son nom. Il n'y a pas 6000 hôpitaux, il y en a 1100 en France et il y a 135 groupements hospitaliers de territoire à l'arrivée. Donc, on voit qu'il y a 135 stratégies de territoire qui se mettent en place pour effectivement offrir un service public hospitalier mieux organisé, c'est-à-dire qui gradue un parcours, une prise en charge depuis un hôpital de proximité qui, bien sûr, n'a pas de bloc chirurgical, a très peu de médecins spécialistes, jusqu'à un plateau de recours, un CHU qui, lui, sera beaucoup plus pointu. Les États-Unis, c'est pas un modèle, pour plein de raisons. Les États-Unis, 19% du PIB américain consacré aux dépenses de santé, c'est 12%, 11-12% en France. Donc on voit bien que les États-Unis dépensent beaucoup et beaucoup trop sans doute pour leurs dépenses de santé, très mal aussi, mais ça c'est un autre débat pour toute la population. Je pense que on va évoluer vers un système beaucoup plus gradué. Il ne faut pas faire de la suppression des hôpitaux, un objectif par principe, parce que il faut au contraire faire muter, faire évoluer les établissements, parce qu'on va besoin demain de beaucoup plus de lits de médecine, parce qu'on reçoit de plus en plus de personnes âgées dans les services hospitaliers. Par contre, avec le développement de l'ambulatoire, effectivement, vous arrivez le matin, vous repartez le soir, vous avez moins besoin de lits de chirurgie. Donc il y a une évolution de la médecine et de la prise en charge qui, évidemment, doit rejaillir sur l'organisation des établissements, mais pas pour la course au gigantisme, pour quelque chose de plus gradué.
Daniel, rapidement, juste avant...
Rapidement, et le ministre de la Santé veut arriver à 70% justement d'ambulatoires d'ici 2022.
Ça, ça me paraît beaucoup, mais ça, c'est un autre...
On est un peu au-dessus de 50%.
Juste un mot, je voudrais quand même avoir votre opinion, puisque l'hôpital, il n'est pas tout seul dans son coin, il est dans un territoire où il y a de la médecine de ville, où il y a effectivement d'autres médecins. Est-ce que la tendance qui est de, par exemple, multiplier les maisons de santé pour faire en sorte que les gens ne se précipitent pas à l'hôpital aux urgences, les urgences, on en parle forcément un petit peu parce qu'on va arriver... Dans la période hivernale, les urgences, comme tous les hivers, on va dire qu'elles sont engorgées. Est-ce que ça, c'est une bonne solution? Est-ce que ça fait partie des solutions? Évidemment, ça ne va pas résoudre tous les problèmes de l'hôpital, mais ça peut désengorger, ça peut aider. Médecins, unissez-vous.
Les maisons de santé, c'est très bien si elles participent à la permanence des soins. C'est-à-dire, si elles ferment à 20h ou 19h, qu'elles ne sont pas ouvertes le soir et pas le week-end, il y aura toujours autant de personnes qui se dirigeront vers les urgences. Donc, la question aujourd'hui qui est posée à la médecine libérale, c'est effectivement sa capacité à mieux participer, ce qu'on appelle la prise en charge des patients, c'est-à-dire à des horaires et à des moments où, effectivement, spontanément, ils sont plutôt fermés qu'ouverts. Parce que c'est ça qui pèse aujourd'hui sur l'hôpital. Tout à l'heure, le professeur Salomon avait raison de dire l'hôpital, sur l'hôpital pèsent les dysfonctionnements de l'ensemble du système de santé. Et ben, c'est profondément vrai pour ce qui est de l'accès aujourd'hui au cabinet de ville.
Rémi Salomon, avant qu'on retourne au standard.
Oui, sur la médecine de ville, le diagnostic est assez péjoratif. La démographie médicale est très inquiétante. On a de façon tout à fait aveugle fermé le numerus clausus pendant ces 10-20 dernières années. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on manque de médecins généralistes en ville. Je crois que les chiffres, c'est 20-25% dans les années qui viennent, qui manquent. Oui. Et les médecins généralistes, comme les autres, travaillent moins. La société évolue, les médecins ne sont plus prêts à travailler 18 heures par jour.
Est-ce que c'est un problème de numerus clausus? Je me permets de vous poser la question, parce qu'on n'a quand même jamais eu autant de médecins aujourd'hui inscrits à l'ordre. Il y a plus de 250 000 médecins, c'est un record. Simplement, ils ne sont pas là où on
veut. Ils ne sont pas là où on veut. Voilà. Donc,
on ne les obligera jamais à se répartir dans un endroit. Je ne connais aucun gouvernement passé et à venir, ça m'étonnerait qu'il les obligera à s'installer.
Il faut revoir, ce n'est pas le sujet ce soir directement, mais la médecine de ville pose un vrai problème. Le paiement à l'acte n'est peut-être pas le meilleur financement de la médecine de ville qui soit pour réinventer, imaginer des structures. Les jeunes qui s'installent sont assez désireux de travailler aussi ensemble, de faire travailler en équipe. Et ces centres de soins ou ces centres de santé pluriprofessionnels ne sont pas... Le modèle économique actuel n'est pas adapté à ces centres de santé. Donc là, il y a réellement une réflexion en profondeur à faire sur le système de soins extra-hospitalier pour désengorger l'hôpital.
Allez, Yolande, nous attend au standard depuis presque une demi-heure. Yolande, pardon, et on vous écoute. Allez-y.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Très heureuse que vous ayez pris mon appel et puis je vous remercie pour la qualité de vos émissions en général parce que j'écoute exclusivement France Inter.
Et vous faites bien. Surtout ne changez rien.
Voilà, moi je suis infirmière en psychiatrie depuis 31 ans, donc j'ai un petit peu d'expérience. Et j'ai constaté que après l'interruption des formations spécifiques en psychiatrie en 1992, j'ai constaté une dégradation de la prise en charge des patients. Parce que on forme des bons infirmiers en soins généraux, mais ils n'ont pas tous la fibre. Ils ne connaissent pas les pathologies psychiatriques. Ils ne connaissent pas la relation humaine. Je constate que la prise en charge des patients va en se dégradant. Alors en plus, moi je travaille au Havre. C'est un hôpital qui est excédentaire en psychiatrie, mais les excédents ne retournent pas en psychiatrie. Ils vont en chirurgie ou ils vont dans d'autres domaines nobles, mais pas en psychiatrie. Et je trouve ça dommageable.
Merci Yolande, merci pour votre témoignage et pour votre présence sur Inter aussi. Frédéric Valtou, vous vouliez répondre, pardon.
Oui, répondre. En tout cas, c'est vrai que la santé mentale est un des grands enjeux de demain. Réellement, parce qu'il y a d'énormes trous dans la raquette et on sait que les problématiques en santé mentale montent et qu'en France, on est parfois en retard sur les établissements spécialisés, l'accompagnement de ces populations. Il faut avoir de bons espoirs. Là, Agnès Buzyn, la nouvelle ministre de la Santé, a dit qu'elle en a fait une de ses priorités. Il faut voir maintenant comment elle la concrétise. Mais ce que décrit effectivement cette infirmière du Havre, on le perçoit dans beaucoup d'endroits. Il y a un souci particulier pour ce qui concerne la santé mentale.
Et pourquoi, je peux me permettre une précision,
Daniel,
pourquoi cet excédent dont elle faisait état dans son secteur de la psychiatrie n'est pas reversé à la psychiatrie? C'est une pratique de reverser à un autre secteur alors qu'il y a un excédent quelque part?
Alors pour la psychiatrie, très honnêtement, je connais pas bien ce sujet, donc je ne répondrai pas directement. Ce que je peux répondre par contre sur le point de l'infirmière qui va passer d'un service à l'autre. Et ça, c'est quelque part, moi je me suis battu dans mon service pour que garder les infirmières. J'ai besoin dans le service d'avoir des infirmières très spécialisées pour avoir une bonne pratique. Il faut au moins 2-3 ans de formation. Et le turnover dans les services, en grande partie, du fait des conditions de travail qu'on a évoquées plus haut, le turnover s'est accéléré. Et donc, les infirmières restaient dans le service il y a une vingtaine d'années. Quand je suis arrivé, c'était 10 ans en moyenne. Hein. On avait des infirmières qui avaient 15 ans d'ancienneté. Une jeune arrivée, elle était immédiatement formée par compagnonnage, par ses collègues. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est la moyenne d'ancienneté, c'est 1 an et demi, 2 ans. Et on a perdu en expertise. Et donc, de voir des infirmières qui passent, qu'on va mutualiser pour gérer un peu la pénurie, qu'on va passer d'un service de néphrologie à un service d'orthopédie, et ça, c'est quelque part, c'est nier leur expertise. Et il faut, les infirmières font un métier difficile, pas très bien payé,
oui,
difficile.
Pas qu'elles partent, il faut qu'elles aient
une reconnaissance, à la fois une reconnaissance morale de leur savoir-faire, mais également une reconnaissance financière. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de parler des pratiques avancées, hein, qui sont effectivement une possibilité pour les infirmières de progresser dans la carrière et d'acquérir des compétences et de les faire valoir. L'universitarisation des infirmières, c'est relativement récent. C'est pas encore beaucoup mis en œuvre. Et je mets à coup le pas, je pense que le corps médical et universitaire est assez réticent à cela. Et donc ça, il faut qu'on fasse un peu le ménage devant notre porte et qu'on accepte que les infirmières puissent faire aussi des carrières universitaires et de la recherche.
Eh ben écoutez, on en a une d'infirmière qui nous a appelé. Maude, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je vais vous laisser poser votre question, Maude, mais puisqu'on était sur ce sujet à l'instant, j'ai une curiosité. Vous avez changé de service combien de fois, sérieusement? Est-ce que vous avez à plusieurs reprises décidé de changer parce que c'était trop pénible là où vous étiez?
Absolument pas. Voilà, je suis une infirmière de gériatrie. J'ai commencé à travailler en gériatrie. Je suis diplômée depuis 2011. Mm-hmm. J'ai fait une reconversion professionnelle.
Hein. Ah, reconversion, d'accord.
Voilà, je suis pas toute jeune, hein, j'ai 42 ans. Voilà. Voilà. Mais récemment, j'ai changé de service. Voilà. C'est de ma propre volonté. J'ai voulu travailler en soins palliatifs.
D'accord.
Voilà, c'est un domaine que je connais parce que j'ai travaillé en gériatrie depuis que je suis diplômée. Voilà. Et depuis que j'ai changé de service, j'ai constaté voilà des dysfonctionnements qui ne sont pas d'ordre de la pathologie, hein, des difficultés liées aux soins palliatifs, mais plus l'ordre de l'organisationnel.
Mmh. Voilà. À l'intérieur de votre service, vous voulez dire, Maude?
Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que pour 8 patients, je suis infirmière avec une aide-soignante. Nous travaillons en binôme. Et voilà, c'est assez compliqué dans le sens où ce sont des personnes extrêmement dépendantes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont plus en capacité d'effectuer des gestes de leur quotidien. Voilà.
D'accord. Donc, Maude, merci beaucoup pour votre témoignage. Rémi Salomon, pour répondre à Maude et son ressenti à l'intérieur de son service.
Donc, si j'ai bien compris, Maude, vous plaignez en fait de votre pratique professionnelle, c'est-à-dire que dans votre travail tous les jours, vous rencontrez des difficultés à bien vous occuper des patients. C'est ça que vous nous dites?
Oui, malgré l'expertise professionnelle, malgré l'expérience, nous sommes habitués à voir des gens qui sont confrontés à leurs difficultés, à leur perte d'autonomie, voilà. Mais néanmoins, au niveau des conditions de travail, voilà, ça devient très compliqué.
On a bien compris que c'était difficile, à cause des conditions de travail, de s'occuper dans de bonnes conditions.
Et donc, clairement, Maude nous exprime cette difficulté qu'elle a à faire bien son travail. Et on comprend hein, que c'est les conditions de travail la mettent en difficulté et vraisemblablement génèrent ce que j'ai appelé tout à l'heure la souffrance morale. Je ne peux pas faire le travail que je souhaiterais faire, ou en tout cas tel que je souhaiterais le faire.
On se posait la question à l'instant d'un usager de l'hôpital pendant la question de Maude, on se disait mais pourquoi est-ce que les usagers ne nous téléphonent pas? Eh bien écoutez, votre vœu a été exaucé, en voilà une, et elle s'appelle Agnès. Bonsoir Agnès.
Bonsoir, bonsoir à tous, merci de m'accueillir.
Je vous en prie, allez-y.
Alors justement,
vous êtes la seule patiente ce soir, profitez-en.
de n'entendre aucun usager à l'antenne. C'est pour ça que j'ai appelé.
Eh bien, vous avez bien fait, on vous écoute.
Voilà. Donc, moi, j'ai dû être opérée de la thyroïde et puis de la cataracte ces derniers temps. J'ai dû payer des dépassements d'honoraires, que ce soit aux médecins anesthésistes ou aux chirurgiens, qui m'ont coûté quand même assez cher. Vu que ma mutuelle ne rembourse qu'une petite partie de ces dépassements. Je me suis trouvée en chirurgie ambulatoire où, en particulier pour la cataracte, on m'a virée carrément d'une chambre particulière que j'avais payé 30 euros pour faire place à quelqu'un d'autre. Alors que j'avais quand même subi une anesthésie qui, je pense... mériter une petite surveillance. Je me suis retrouvée à la rue je pose la question de savoir si c'est bien normal de traiter les patients de cette manière-là pour rentabiliser l'hôpital.
Agnès, juste pour être sûre et certaine, vous étiez dans un hôpital public, on est d'accord ?
C'est une clinique conventionnée.
Ah. C'est... Non mais c'est bien de le préciser, c'est bien de savoir exactement d'où on parle en fait, Agnès, qui n'enlève rien d'ailleurs à ce que vous avez subi évidemment après vos interventions, mais c'est bien de savoir effectivement d'où on parle. Enfin, Frédéric Valtoux pour répondre.
On sait qu'aujourd'hui les dépassements d'honoraires, ils sont à peu près 80-90% des dépassements d'honoraires sont dans les cliniques commerciales. Il y en a aussi dans le public et ça a été un sujet il y a quelques années. Elles ont été régulées maintenant assez fortement dans certains hôpitaux, notamment la PHP avait fait un grand travail sur le sujet. Mais c'est vrai que le très gros des dépassements d'honoraires, c'est pour ça qu'on pouvait se poser la question de l'établissement qui avait reçu Agnès, mais c'est plutôt dans les cliniques. On voit apparaître effectivement, et on parlait de la tarification à l'activité tout à l'heure, on voit apparaître des cliniques qui se concentrent sur des gestes qui sont parfois les plus rémunérateurs. Votre interlocutrice parlait de la cataracte tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des cliniques qui ne font que de la cataracte. Évidemment, c'est un hôpital est dans une approche totalement différente. À l'hôpital, il ne sélectionne pas ses patients et j'allais dire, il accueille tout le monde, ce qui n'est évidemment pas le cas des établissements privés qui sont, pas tous, mais souvent dans d'autres logiques.
Rémi Salomon.
Oui, je ne vais pas répondre directement à Agnès, mais j'avais passé un petit papier pour dire, mais et les usagers.
Oui.
Les usagers, on en a peu parlé jusqu'à présent, et il y a cette enquête que vous avez diligentée qui est parue ce matin, qui montre que en très grande majorité les Français plébiscitent l'hôpital, mais il y a un mais. Il commence à y avoir un peu d'inquiétude.
72%, voilà.
Voilà, donc il y a, je ne sais plus les chiffres exactement, mais ça a baissé.
Ils sont très fiers de leur hôpital.
Oui, mais c'était 80% l'année dernière. Donc il y a une véritable inquiétude.
Ce que dit en gros le sondage, c'est qu'ils plébiscitent, mais ils ont peur que les manques de moyens fassent qu'ils soient moins bien soignés.
Et donc les soignants ne sont plus seuls, et c'est important que les usagers sachent ce qui se passe dans cet hôpital. Et je le dis avec un peu de solennité, parce que nous sommes inquiets, je suis inquiet, et ce sentiment est très largement partagé. Je suis inquiet de voir que cette belle institution républicaine qu'est l'hôpital public est en train de s'effriter pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. Et donc, il faut absolument que l'on retrouve, que cette confiance soit retrouvée à l'intérieur de l'hôpital, mais également avec tout le système de soins autour de l'hôpital et avec les usagers. Et quand j'ai parlé de la gouvernance de l'hôpital tout à l'heure, il faut, je pense, donner plus de voix aux usagers aussi. Non plus évaluer l'activité du médecin par des chiffres, mais par la qualité. Et l'usager saura nous dire, par des questionnaires, nous dire j'ai été bien traité. Oui, et donc ça c'est absolument essentiel.
Non, pardon, mais ça existe.
Les associations de patients,
il y en a, mais ils ne sont pas assez présents.
Assez nombreux,
et c'est vrai que dans la gouvernance de l'hôpital, il serait à mon avis bon que nous donnions plus de voix aux usagers, aux associations de patients.
Est-ce qu'il faut noter, même, allons-y, il faut noter les hôpitaux. Alors ça existe,
certains médias
ça fait
le font,
une des magazines.
Oui, mais ils le font
le font avec leurs critères.
Oui.
En tous les cas, ce qui est vrai, c'est que, vous savez, un hôpital, c'est complexe, la gouvernance est complexe, il y a à prendre en compte le programme médical. Alors un jour, on fera peut-être une émission sur toute la recherche, tout ce qui s'invente tous les jours dans les hôpitaux, et ça, l'institution, elle est formidable aussi de ce point de vue-là, mais elle doit prendre aussi en compte des contraintes budgétaires, mais aussi ce qu'ont à dire les patients, et c'est vrai que cette alchimie-là, c'est de ça qui fait que c'est une institution unique,
merci.
Et qu'il faut préserver.
Et merci à tous, ce sera le mot de la fin, à préserver. Merci à tous pour votre présence dans le téléphone sonne. Bonne soirée sur Inter.